RCF.
Non mais vous inquiétez pas, j'ai juste besoin de retrouver mon chemin intérieur.
Est-ce que vous trouvez que j'ai la tête d'une imbécile ?
Ah, ça c'est pas faux.
Santé.
Eh bien bonjour à toutes et à tous et à la Saint-Boris. Pendant une heure, détente et culture seront tes complices. Mais c'est aussi valable pendant toute l'année. Alors à l'affiche aujourd'hui, un groupe de pop-rock qui disparaît brutalement au sommet de sa gloire. C'est Daisy and the Six, une nouvelle série musicale largement inspirée de Fleetwood Mac. Ce sera le coup de cœur de Pauline Arrée cette semaine. Et puis pendant les campagnes militaires, mais surtout au camping, il a permis d'adoucir vos nuits. Mais comment est né le lit de camp ? Viviane Pérez se relèvera pour nous dévoiler ses origines. Lit de camp, mais aussi matelas gonflables, tentes ou mobilhomes, tout un univers que notre invité connaît bien. Et on n'attendra pas Patrick pour nous le raconter. Bonjour Franck Coudert. Est-ce que Franck Coudert est avec nous ?
Bonjour.
Bonjour Franck Coudert, le même prénom, le même prénom que Franck Dubosc, alias Patrick Chirac, dans la trilogie Camping de Fabrice Antoniente. Trois films qui ont été tournés dans votre camping d'idées Flots Bleus, dont vous êtes le directeur depuis 2011. Un lieu qui a failli complètement disparaître en juillet dernier suite aux incendies qui ont ravagé la Gironde. Alors, comment s'est passée sa réouverture ? Comment devient-on le directeur du plus célèbre camping de France. Vous le racontez avec Denis Grandjou dans un livre qui est paru aux éditions City. On va découvrir tout cela avec vous. Tout doux, bienvenue au camping avec Franck Coudert. C'est parti.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Elle est en panne ?
Non, elle n'est pas en panne, elle attend le coucher du soleil, elle adore ça.
Bon, on est où là, s'il vous plaît ? Route des plages.
Quelle ville ?
Entre Arcachon et le Moulot.
Entre Arcachon et le Moulot.
Mais c'est quand même un petit peu plus Arcachon, hein.
Oui, enfin...
Si, c'est plus Arcachon.
Bon, apparemment, c'est plus près d'Arcachon.
Vous n'avez qu'à dire camping des flots bleus.
On va dire camping des flots bleus.
We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita.
Voilà, pour se mettre dans l'ambiance générique de Camping 1. Mais où est vraiment situé le camping ? Est-ce que c'est plus près du Moulot ou d'Arcachon ? Tranchez une bonne fois pour toute cette question, Franck Coudert.
C'est entre les deux.
Entre les deux.
Non, c'est plus près du Moulot.
C'est plus près du Moulot. Voilà. Pourquoi
que... Ouais,
pourquoi...
disons que...
Oui.
Comment ?
Pourquoi cette question, non, tout non, le monde je... qui revient ?
Ah, ben c'est une réplique du film voilà, qui a fait rire tout le monde et qui est resté dans les esprits.
Voilà, donc on a maintenant bien situé. Alors on va revenir sur les coulisses de cette saga cinématographique, mais auparavant un petit retour justement sur site. À quand remonte la création de ce fameux camping ?
1966, voilà, c'était je crois le premier camping au pied de la dune.
Oui.
Un monsieur qui a eu une brillante idée. Et qui a décidé en fait de faire un camping sur ce lieu. Donc je trouve que c'était très brillant à l'époque.
Oui, effectivement, puis ça continuait. Il s'appelait pas les Flots Bleus, hein, je crois, dès le départ.
Non, c'est le camping de la dune. Alors administrativement, on a toujours le nom du camping de la dune. Comme on dit souvent, les Flots Bleus, c'est notre nom de scène.
Notre nom de scène, c'est joli. Camping de la dune, et pour cause, puisqu'au pied de la fameuse dune du Pilat, un monstre de sable d'un peu plus de 100 mètres de haut, 116 mètres de large, et je crois près de 2900 mètres de long, dernières estimations, parce que la dune, elle bouge tout le temps, hein. Je me trompe pas, Franck Coudert.
Ah oui, nous, elle nous mange du terrain chaque année, entre 4 et 5 mètres de terrain par an. C'est dû au vent, surtout surtout en ces périodes de tempête, je dirais. Voilà, c'est le banc d'Arguin qui amène du sable sur la dune et qui s'approche de plus en plus de la route de Biscarrosse.
Enfin, l'ensevelissement, c'est quand même pas pour tout de suite. Le camping donc de la dune, qui va devenir les Flots Bleus, son nom de scène, va évoluer au fil des temps. Hein. C'est ce que vous racontez dans votre livre. Il a été classé 3 étoiles en 69, avec une capacité d'accueil à l'époque d'un millier de vacanciers. Puis il y a eu l'arrivée des premiers mobile homes dans les années 80. Et dans les années 90, les premiers chalets en bois. Comment est-ce que vous en êtes devenu directeur en 2011, vous qui avant avez travaillé dans le secteur de la télévision surveillance. Et d'ailleurs, elle avait été 7 fois, je crois, champion de France en ski nautique. C'est quand même pas banal. Comment est-ce qu'on devient directeur de camping?
Alors, c'est grâce à mon parcours de ski nautique, puisque un de mes premiers sponsors, qui était Monsieur Gilbert Cordier, qui était propriétaire de garage automobile, me prêtait un camion pour faire la route vers mes compétitions. Et au fur et à mesure, c'est devenu un ami, ses enfants pareil. Aurélie, sa fille, est devenue la marraine de mon fils. Mmh. Et voilà, donc moi je continuais dans mes alarmes, dans mon métier premier. Et, au détour d'une conversation avec Sébastien, le fils donc de Gilbert, il me dit on a besoin d'un directeur, ça te dit pas? Au premier abord, j'avais dit écoute, non, pas trop, j'y connais que dalle, le camping, j'y vais de temps en temps, mais c'est pas ma spécialité. Et ça, c'était en 2010, et à force de discussion avec Gilbert, qui est quand même un homme brillant et à qui on peut rien refuser, je lui ai dit bon, allez banco pour une saison ou deux, et après on verra. Ouais. Et j'en suis, je crois, ça va être ma 13e saison.
Gilbert Cordier, vous le dites dans votre livre, c'est quand même un sacré personnage. Hein. Il est né en Algérie, diplômé d'architecture, vendeur de photocopieuses. Il s'est intéressé au téléphone portable avant de devenir concessionnaire automobile. C'est vraiment un vrai touche-à-tout, hein, on peut le dire, Franck Couder. Ah, je crois qu'on a perdu la liaison avec Franck Couder. Franck Couder, donc notre invité aujourd'hui dans Tout Doux, le directeur du camping des Flots Bleus. Les Flots Bleus qui a été le lieu de tournage de la célèbre trilogie cinématographique avec Franck Dubosc. Alors, vous avez repris ce camping donc en février 2011. Une tâche pas évidente parce qu'un camping, ça demande quand même pas mal d'organisation.
Comme chaque année, vous aurez droit aux traditionnelles animations qui ont fait la réputation des Flots. Fête du cochonnet, lancer de pambagna, course de pastèque, et sans oublier notre grand bal, dont le thème vous sera révélé lors du buffet égyptien. En attendant, au nom de toute l'équipe des Flots, je vous souhaite des bonnes vacances, un bon buffet et sangria.
Voilà, sangria pour tout le monde, extrait de Camping 1 avec Christiana Chitti en directrice enthousiaste et de la motivation. Ben, il en faut, hein, pour gérer un camping comme le vôtre, Franck Couder. Vous vous comparez dans votre livre au maire d'une petite commune. Dans quelle mesure, hein, pendant la pleine saison?
Oh ben, on a énormément de monde. On a des gens qui viennent de toute la France. On a pas mal de nationalités. Moi, je dis que la réception, c'est notre petite mairie. Et en fait, tout passe par là, et beaucoup de choses passent par moi. Voilà. Et puis c'est toutes les responsabilités que l'on peut avoir pour que, je dirais, nos vacanciers passent le meilleur moment possible.
Ouais. Combien de vacanciers à gérer en moyenne pour chaque saison, en pleine saison notamment?
Ah, on évalue à peu près à 20 000 vacanciers qui passent par chez nous. Il y a qui viennent une nuit, une semaine, 10 jours, 3 nuits, enfin ça dépend.
Ouais, d'un peu partout en France. Alors,
en France et en Europe,
des vacanciers qui sont à gérer, mais il y a aussi toute une équipe, hein, de la réception à l'animation, passant par l'entretien ou la restauration. Et pour certains, il faut garder un œil ouvert. On vous a même comparé à Guy Roux, l'ex-entraîneur inflexif de l'AJ Auxerre. Qu'est-ce qui vous a valu cette comparaison, Franck Couder?
C'est parce qu'à côté de chez nous, on a une boîte de nuit. Et où je connais pas mal de monde et je surveille les allées et venues de mes saisonniers pour les avoir en forme le lendemain. C'est vrai que ça ressemble un peu à la façon de faire du Guirou. J'y vais moi-même de temps en temps pour vérifier s'ils font pas n'importe quoi. Voilà, donc on a une réputation.
Oui, une réputation à tenir et qui reviennent pas complètement, disons, un peu cuit, on va dire, pour le reste des vacanciers. Alors, comment votre camping est devenu l'un, sinon le plus célèbre de France? On va en parler, ce sera juste après une première page musicale. Alors, c'est pas la marche des tongs, hein, mais Queen que vous nous proposez avec Bohemian Rhapsody. Pourquoi ce groupe et ce titre en particulier?
Ah, c'est un morceau que j'écoute dans les moments, pas de stress, mais oui, quasiment. Donc voilà, où j'ai besoin un peu de musique un peu forte dans les oreilles, voilà.
Ouais, pour vous.
Donc ouais, ça me fait du bien.
Ça vous fait du bien. On va écouter quelques extraits de cette Bohemian Rhapsody et tout de suite après, on en revient au camping des Flots Bleus.
just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time.
L'extrait de Bohemian Rhapsody, le choix royal de Franck Couder, le directeur du plus célèbre camping de France, à savoir celui des Flots Bleus, immortalisé au cinéma.
Allez, bon vacances.
Pastis parfum bleu,
pastis délicieux. Ouais.
Allez, santé.
Alors, on n'attend pas Patrick?
Voilà, on n'attend pas Patrick pour danser la marche des tongs, extrait de Camping, le premier de la trilogie tournée en 2005. À l'origine de cette saga, il y a un spectacle pour toi public en 2002 où Franck Dubosc racontait son amour du camping depuis son enfance. Rappelé d'ailleurs dans la préface qu'il a écrite de votre livre, l'idée d'en faire un film, de ce sketch, il est lancé. Mais comment votre camping a-t-il été retenu pour ces films, Franck Couder?
Alors moi, j'étais pas encore destiné à devenir directeur de camping, mais de ce que je sais, c'est que en fait, ils ont fait un casting, ils ont fait le tour de plusieurs campings, et c'est vrai que celui-ci correspondait tout à fait à ce qu'ils désiraient. Donc c'est un petit peu un hasard, mais moi je dis aujourd'hui, un hasard qui fait bien les choses pour nous.
Je crois que c'était la voie d'accès au camping, hein, parce qu'il fallait deviner d'un premier coup d'œil les arbres, les pins et les caravanes. Hein. Il fallait que ça se voit tout de suite à l'écran.
Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient dans leur tête déjà exactement ce qu'ils voulaient faire, donc, comme on dit maintenant, c'est la voie était royale pour eux, hein. Ils arrivaient, pam, ils avaient exactement ce qu'ils voulaient au premier coup d'œil, donc voilà.
Voilà, alors le tournage a commencé en septembre 2005, hein. Vous étiez, comme vous l'avez dit, pas encore directeur à l'époque, mais quels souvenirs on vous a communiqué de ce premier tournage?
Quelque chose de très joyeux, très festif, très très sympathique à vivre. D'ailleurs, je pense que j'aurais bien aimé être là dès le premier. Alors moi j'ai Coco qui est à la réception, qui est chez nous depuis plus de 30 ans, qui elle a vécu les trois tournages de façon complètement différente. Mais c'est vrai que le premier, c'était nouveau, c'était, ils savaient pas trop si ça allait marcher ou pas, donc, mais c'était très joyeux.
Très joyeux. Alors, il faut dire qu'il y avait un beau casting, hein, puisque outre Franck Dubosc, il y avait aussi Claude Brasseur, Mylène de Mongeau pour les Époupiques, Antoine Duléry, Mathilde Seigné pour les Gatineaux, Gérard Lanvin en médecin de chirurgie esthétique qui est parachuté dans un milieu qui fait figure un peu d'extraterrestre. Et puis, il y a des répliques cultes, hein, des répliques cultes comme dans Les Bronzés où le Père Noël est une ordure, comme par exemple celle-ci.
Le Père Noël, Monsieur Chirac est demandé à la réception. Monsieur Chirac.
C'est pour moi.
Non mais tu t'appelles Chirac, toi?
Ben oui, Chirac, Patrick Chirac. Pourquoi? Non mais d'accord, non, non, y a rien à voir. Non, non, attends, on s'est même jamais rencontrés. Par contre, c'est lourd à porter. Chez Amora, il m'appelait Bernadette.
Mais pourquoi tu changes pas de nom?
Pourquoi c'est moi qui changerais?
Eh oui, pourquoi ça serait moi qui changerais de nom? Énorme succès populaire hein, à la sortie de ce premier camping en avril 2006 avec 5,5 millions de spectateurs. Ça passait même devant le Da Vinci Code avec Tom Hanks et Mission Impossible avec Tom Cruise. À votre avis, Franck Couder, qu'est-ce qui a expliqué ce succès?
Ah, c'était rafraîchissant. Et puis, je pense que les campeurs se reconnaissent en fait dans ce film. Mmh. C'est pas du tout une parodie en fait, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours et voilà, et puis je pense que voilà, c'est rafraîchissant, c'était une belle comédie, c'était quelque chose de très sympa à voir.
Ouais. Très très humain d'ailleurs hein, entre campeurs hein, toutes ces relations qui sont montrées. En quoi ça a boosté la notoriété du camping de la Dune hein, je rappelle le nom officiel de votre camping. Est-ce que vous l'avez mesuré, il y a eu un avant et un après camping?
Ah, surtout dans les photos que vous pouvez voir sur Google, c'est-à-dire que on doit être numéro un des campings rien que pour ça. Mmh. On a gardé en fait l'enseigne des flots bleus. Et après peut-être pour les événementiels, c'est-à-dire les séminaires, les cousinades, c'est sympa de le faire aux flots bleus. Vous voyez des trucs comme ça qu'on n'avait pas avant et qu'on a maintenant.
Mmh. Il y a des gens qui s'arrêtent exprès pour se faire prendre en photo devant aujourd'hui.
Oh, j'ai à peu près, je sais pas moi, 150 à 200 photographes en période creuse et le double en période ouais. En période de vacances. Ouais. Et on n'attend pas Patrick. Je sais pas, j'ai dû l'entendre un million de fois.
Un million de fois. Il faut dire qu'il y a une silhouette de Franck Dubosc qu'on peut mettre sa tête à sa place aussi. Et ça, elle est très demandée par les touristes.
Ah, c'est là que quand on est en période de vacances, c'est le lieu où il faut venir. On est un peu là. La gendarmerie de Saint-Tropez, voilà. Oui. On est au camping du Pila, où il faut aller, au moins pour prendre la photo.
Au moins pour prendre la photo. Alors, par la suite, il y aura un camping 2 en 2009, et puis un camping 3 tourné en 2015. Alors là, vous êtes directeur. Est-ce que vous étiez chaud quand le réalisateur vous a demandé de tourner une nouvelle fois chez vous?
Ah, ben moi, j'étais assez content parce que je connaissais pas du tout ce milieu-là, et puis j'avais envie de vivre ça. Mmh. Quand il m'a dit la date, j'étais beaucoup moins chaud. Mmh. Quand il m'a dit les équipes arrivent en juin pour faire la déco, les transformations du camping et on viendra tourner, il m'a dit à peu près à partir du 20 août. Mmh. J'étais quand même moins chaud parce que je savais qu'au mois d'août on allait être rempli et que ça allait être compliqué. Bon, ça a été compliqué, mais ça a été génial quand même. Mmh. Enfin, avec des gens fort sympathiques.
Quel rapport avec Franck Dubosc hein, que vous avez pu voir cette fois-ci pour la première fois, vu que vous n'étiez pas là aux deux tournages précédents. Il était comment, Franck Dubosc? Très concentré, toujours en maillot de bain, évidemment.
Ouais, c'est un vrai pro. Ouais. C'est un vrai pro. Après, moi, je suis pas du genre à aller importuner les gens comme ça, parce que je voyais bien que quand il sortait de sa loge ou d'un bâtiment, il y avait plein de gens qui se ruaient vers lui. J'ai pu discuter une fois dans mon bureau avec lui, mais très facile à approcher, très sympathique. Moi, je l'ai pas vu refuser une seule fois un autographe. Mmh. Voilà. Par contre, super sollicité. Je comprends que par moment, il a envie de calme et de se protéger un peu parce que moi, quand je sors de mon bureau en tant que directeur, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir. Mais alors lui, c'est incroyable.
On imagine. Est-ce qu'il y a des gens de votre équipe qui ont tourné aussi dans les films camping? Est-ce qu'on les voit dans ces films-là?
Alors il y a Corinne, justement, hein, la réceptionniste qu'on voit. Après, j'ai deux ou trois saisonniers. Mmh. Moi, j'ai fait figurant, mais malheureusement, on me voit que l'épaule. À croire qu'il y avait que ça de bien. Non, voilà. Après, on a tous participé un petit peu, puisque le réalisateur, je pense qu'il nous a fait ce petit cadeau-là. Il nous avait dit, si vous voulez faire figurant, on vous inscrivez, et puis on vous prend comme figurant. Après, on passe ou on passe pas. Ça, c'est encore autre chose. Mais tout le monde a fait un petit quelque chose. Ouais.
Mmh. Cela dit, le camping dit des Flots Bleus, c'est un lieu qui a failli ne plus exister en juillet dernier. On va en parler dans un instant. Mais le mardi, eh bien, on s'intéresse aux objets de notre quotidien. Quelle est leur histoire? Et pour nous la retracer, eh bien, Viviane Perret, écrivaine et historienne, ça tombe bien. Et aujourd'hui, eh bien, avec elle, on va se mettre au lit.
Tout doux, complément d'objet.
Il n'est pas interdit d'ajouter une touche de confort au camping. Et pour ceux ou celles qui ne souhaitent pas dormir à la dure, à même le sol, eh bien, il y a le fameux lit de camp. Bonjour Viviane.
Bonjour Vincent.
Alors, à quand remonte l'origine de ce fameux lit de camp?
Eh bien, Toutankhamon, qui a régné en Égypte environ 1300 ans avant Jésus-Christ, a peut-être été le premier utilisateur d'un lit de camp. Lorsque la tombe du pharaon a été ouverte en 1922, on a découvert un lit qui se repliait en forme de Z, suggérant qu'il avait un intérêt pour le camping, peut-être lors de chasse.
Alors cela dit, le lit de camp, un camp comme campement, est tout de même associé en premier lieu avec les déplacements militaires, je ne me trompe pas.
Oui, militaire ou colonie, car le colon, avant de construire sa maison, vivait souvent sous une tente et ne dédaignait pas s'isoler du sol en dormant sur un lit de camp. Néanmoins, les déplacements militaires ont beaucoup joué dans la conception des lits pliants.
Et on pense notamment à un grand utilisateur, Napoléon Bonaparte.
L'empereur a en effet passé les deux tiers de son temps en campagne. Son lit le suivait partout, porté par des mulets. Il installait généralement son bivouac au pied d'un arbre, c'est-à-dire qu'il installait quatre tentes reliées entre elles en forme d'appartement, dont la dernière était sa chambre, où se trouvait son lit de camp. Un modèle pliant, en fer, dit lit parapluie, conçu par un serrurier, Marie-Jean Dessouches. Lit de camp qui fut aussi son lit de mort après son exil à Sainte-Hélène en 1821.
Voilà, de quoi partir pour un très long repos. Et depuis, comment a évolué le lit de camp militaire?
Les modèles en fer ou en bois vont se multiplier, mais le plus connu est le lit Picot, du nom du fabricant de meubles Jules Picot. Un modèle breveté en 1877, mais dont les Américains se sont largement inspirés pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faudra attendre 1957 pour que le lit Picot avec le cadre en bois soit remplacé par un cadre en fer métallique et 1993 pour qu'il soit entièrement démontable, plus léger et aisé à transporter.
Donc finalement, si je comprends bien, une évolution quand même assez lente depuis les pharaons. Et aujourd'hui, le lit camp, est-ce qu'il a toujours la cote?
Il a maintenant un concurrent, c'est le matelas gonflable breveté en 1944 et qui va se développer à partir des années 1960 avec le boom du secteur du plein air et des systèmes de pompes qui nous permettront de ne pas nous arracher les poumons. Mais savez-vous qu'on lui doit une forme de location très en vogue depuis une vingtaine d'années, Vincent?
Non, laquelle? Alors là, je vous sens vraiment gonflé à bloc pour la réponse.
Eh bien, c'est le fameux Airbnb. À l'origine, ces deux fondateurs accueillaient des personnes chez eux sur un matelas gonflable, ceci afin d'arrondir leur fin de mois, d'où la création du Airbed and Breakfast, littéralement matelas gonflable et petit déjeuner, dont la contraction a donné Airbnb.
Du lit de camp ou Airbnb, quelle histoire! Eh bien, merci Viviane, vous pouvez lever le camp, mais on vous rappelle quand même pour la relève, la semaine prochaine pour faire le lit d'autres chroniques. À très vite, Viviane.
Tente maréchale, 4 places adultes, 2 places enfants, ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyétiné. Et alors attention, la chambre d'amis, avec contre-porte moustiquaire.
Ouais, c'est une tente, quoi.
Ouais, j'ai un petit peu plus quand même.
Tout doux, avec Vincent Belletti.
Voilà, tente coûte tout confort, selon Franck Dubosc. En parlant de tente, justement, Franck Couder, est-ce que vous pourriez nous rappeler, parce qu'on l'apprend aussi dans votre livre, et ça m'a vraiment surpris, quelle était la tente, et quelle est la tente d'ailleurs la plus chère du monde?
La Maverick.
Oui, pourquoi la Maverick?
Tout simplement, c'est une invention, elle résiste à toute épreuve, inéfugée, résiste au vent, voilà.
Oui. Elle est du nom du héros de Top Gun, je le dis pour ceux qui ne seraient pas familiarisés. Elle pèse 25 kilos, elle peut accueillir 10 personnes et résister à des feux et des vents de 180 km, pour la somme de... Pouvez-nous la donner?
Alors, je crois que c'était entre 5 et 10 000.
5 et 10 000 euros pour coucher sous cette tente. Effectivement, c'est beaucoup. Une petite anecdote parmi d'autres, parce qu'on retrouve aussi l'origine du camping-car, l'origine aussi des premiers campeurs qui étaient les Romains. Et puis, on découvre aussi le fameux drap d'or. Alors, j'en profite puisque Viviane a resté avec nous, le drap d'or. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Viviane?
Des illustrations extraordinaires que nous avions dans nos livres d'histoire avec les rencontres entre les rois. et ces fameuses tentes qui étaient extrêmement luxueuses avec du velours, du brocart doré, brodé.
Ouais, alors ça, c'était la rencontre entre François Ier et son rival de l'époque, Henri VIII d'Angleterre, et c'était à celui qui, effectivement, entre les deux, eh bien, aurait la décoration, les décorations les plus éblouissantes. Vous avez même une petite anecdote, mais confiée hors antenne, Viviane, c'est que votre chien, il est né dans un camping.
C'est exact, il est né dans un camping à Palavas-les-Flots.
Palavas-les-Flots, ah oui. Vous connaissez, j'imagine, Franck Couder, Palavas. Vous avez fait le tour des campings. Ouais. Est-ce que vous-même, vous étiez un adepte du camping, Franck Couder, avant de prendre la direction des Flots Bleus?
Oui, j'ai fait pas mal de camping, et notamment aussi avec à travers les compétitions où on campait pas mal au bord de l'eau. Mmh. Donc, ça me parle, et ça me parle encore parce que des fois pendant mes vacances avec un camping-car que l'on veut bien me prêter, je pars sur les routes, dans les campings ou en Espagne, un peu partout en France pour découvrir certains lieux.
Ouais. Et vous dites,
c'est sympa.
Vous dites que vous êtes le directeur des Flots Bleus avec Franck Dubosc ou pas du tout?
Non, pas du tout, non.
Pour qu'on vous fiche un petit peu la paix. Bon, on parlait tout à l'heure de cette tente allemande qui résiste au feu et au vent de forêt. Est-ce qu'elle aurait pu résister au cataclysme qui s'est abattu sur la région l'été dernier, notamment à ravager votre camping? C'est pas sûr. On va en parler en tout cas dans quelques instants, de même qu'une série musicale coup de cœur cette semaine de Pauline Arrey. À tout de suite.
Tout doux, une émission de Radio Notre-Dame et RCF. Présenté par Vincent Bellotti.
Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité du jour, Franck Couder, directeur du camping de la Dune, devenu célèbre au cinéma sous le nom des Flots Bleus, avec la saga des films camping tournée par Fabien Antoniente avec Franck Dubosc. Un lieu mythique dont vous racontez les coulisses dans Bienvenue au camping, coécrit avec le journaliste Denis Grandjou, et c'est paru aux éditions City. Alors, les Flots Bleus, c'est une belle aventure et qui a failli virer au cauchemar en juillet dernier.
Au pied de la dune, le feu n'a presque rien laissé. Quelques pins, mais mobilhomes et caravanes ont disparu, fondus. Les carcasses des voitures sont restées, ainsi que cette arrivée de gaz, encore ouverte. C'était le camping des Flots Bleus. L'équipe du film, notamment l'actrice Mylène de Mongeau, a déjà affiché sa solidarité.
Et un copain qui avait tourné avec nous et qui m'a dit « les Flots Bleus n'existent plus ». Et je me suis effondrée, je pensais que à Claude Brasseur, à son emplacement 17.
Passé le choc, les propriétaires de camping prévoient déjà de reconstruire. Ils espèrent que les pouvoirs publics les accompagneront durablement dans cet effort qui s'annonce énorme.
Voilà, extrait du journal télévisé de TF1 le 19 juillet dernier. Alors ce grand incendie, eh bien vous le racontez aussi dans votre livre, Franck Couder, jour par jour. Tout commence le 12 juillet 2022, des colonnes de fumée qui commencent à apparaître au loin. Mais pourtant au début, vous croyez pas que le camping soit menacé. Qu'est-ce qui vous donne cette certitude?
Oh, simplement, moi j'étais sur la route quand ça s'est passé. Donc c'est la piste 214, j'allais chercher mon fils. Et quelqu'un m'a arrêté, m'a dit il faut que tu fasses demi-tour parce qu'il y a un départ de feu. C'est à peine 5 minutes après, j'ai vu les pompiers, j'ai croisé les pompiers. Donc après avoir fait demi-tour, donc je me suis dit bon ben ça va, ils sont déjà là, ils ont pas mis longtemps, ça va être. On a des départs de feu, je dis pas souvent, mais on en a quelques-uns. Donc et puis c'était assez loin du camping. La colonne, elle était à 6-7 kilomètres du camping, donc. Voilà, et puis le soir même, il y a un élu donc de l'Amérique qui nous dit bon, vous inquiétez pas, pour l'instant on maîtrisait la situation. Ce qu'on maîtrisait pas, c'est le vent, c'est tout ce qui s'est passé après.
Alors justement, vous allez recevoir l'ordre d'évacuer. Ça va être fait à 4h du matin. Les vacanciers sont regroupés au parc des expositions de la Teste. 6000 campeurs qui se retrouvent là. Je sais pas quelle image vous en gardez de ce campement improvisé. Je crois que ça vous a beaucoup marqué, Franck Couder aussi.
Ouais, c'est en fait ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le départ de tout le monde, parce qu'on s'attendait pas du tout à ça. On s'est retrouvés, nous, avec le temps de bien tout vérifier, on s'est retrouvés avec mes collègues seuls dans le camping, qui était bien sûr en juillet super animé, et puis tout d'un coup plus un chat. Donc on a refait le tour du camping, et puis c'est vrai que quand on est arrivé là-bas, tout ce monde, les lits de camp, bah les gens un peu hagards, surpris, à 3h du matin, pas évident. Voilà, et puis le plus surprenant, ça a été les jours suivants aussi, cette solidarité des gens de la Teste de Buch, la mairie, les pompiers, la police, une solidarité que je connaissais pas, hein, j'ai jamais vécu ce genre de drame, mais des gens super gentils, à l'écoute, prêts à rendre n'importe quel service. Moi, je sais qu'on a bon nombre de clients qui devaient être logés au parc et qui ont été dormir chez des habitants, qui ont ouvert leurs portes. Enfin, c'était...
C'est un grand moment de solidarité, comme vous disiez. Alors, vous pensez toujours que votre camping va être épargné. Vous suivez d'ailleurs l'évolution de la situation avec des caméras de surveillance qui sont installées sur les lieux. Et puis, ça va finir par arriver le 18 juillet à 8h30. Il y a un départ de feu devant le camping de la Dune, des Flots Bleus. Et puis, les caméras arrêtent la transmission. Alors, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là?
Alors, moi, j'ai suivi en fait tout ce qui se passait. Une fois que j'ai perdu la connexion, j'étais avec une collègue, je dis oh merde, c'est mort quoi. Voilà, je me doutais parce que j'étais le matin même, on est venu avec notre collègue sur le camping parce qu'on a vidé les frigos pour le donner aux animaux du zoo. Et j'ai vu qu'il y avait tous les pompiers devant, donc déjà c'était limite. Je dis ouais, ça va pas tenir, c'est pas possible. Mais bon, j'avais toujours espoir, j'avais toujours mes caméras, toujours la liaison, donc bon. Et c'était, je sais plus, dans l'après-midi. Là, quand on a tout perdu, j'ai dit merde, c'est pas possible, quoi.
Alors, vous êtes autorisé à revenir sur les lieux le 19 juillet à 13h. Et alors là, qu'est-ce que vous constatez, Franck Houdert?
D'abord, on passe devant nos collègues du camping de la Forêt, où tout était dévasté. Donc on n'a aucun espoir. Hein. C'est voilà. Première vision, je dirais, de notre camping, ça a été le bar qui était complètement brûlé. Et stupeur, on a tout le devant, le bâtiment administratif, épicerie, restaurant, accueil, tout ça parfaitement intact. L'enseigne Flots Bleus toujours debout.
Et même la silhouette en carton de France Dubosc, hein, qui n'avait pas bougé, qui n'avait pas.
Et ben en fait, ouais, tout est resté comme comme quand on est parti. La terrasse du bar montée, incroyable.
Et derrière?
Vraiment incroyable. Et après on est rentré dans le camping, dans le vif du sujet. Et là, plus rien. Tout à terre, tout perdu. Plus de mobilhome, plus de chalet, plus de tent lodge, plus de route.
Des plaques de plastique aussi fondues dans une sorte de statue d'art abstrait, hein. C'est ce que vous dites aussi dans votre livre.
Ouais, ma moto a brûlé aussi et j'ai retrouvé du métal fondu. Après les vitres des mobilhomes, pareil, fondues, ça faisait un peu de l'art. Ouais, c'était quand même assez bizarre. Hein.
Est-ce que pour vous, ça a été une évidence tout de suite de vous dire « il faut reconstruire » ou il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit « allez, on laisse tout tomber, on tourne la page » ?
Ah non. Nous, dès le lendemain, on se demandait comment on allait faire. On s'est posé quelques questions. Et puis surtout, après, on a eu la visite du président qui nous a confortés dans le fait que on allait pouvoir reconstruire sur le même site. Et à partir de là, ça y est, c'était reparti. On a réuni les équipes et voilà.
Il n'y a pas eu d'hésitation un seul moment, hein.
Non.
Non. Même devant l'étendue de la catastrophe.
Non, parce que le site est magnifique et qu'on n'avait pas envie de partir. Et que voilà, on avait la chance, de, par rapport à nos collègues, d'avoir des bâtiments encore debout. Donc on a voulu saisir cette chance le plus rapidement possible.
Alors le compte à rebours pour la reconstruction va commencer. Parmi les éléments d'ailleurs à mettre en place, outre les équipements, il y avait aussi les arbres qui étaient complètement calcinés, qui faisaient aussi partie du décor des Flots Bleus du camping de la Dune. Il y a un homme qui va vous aider, il s'appelle Jean-Christophe Nani, il est paysagiste. Il a vraiment donné un petit coup de pouce important pour cette reconstruction, ce replantage d'arbres. Vous en parlez aussi dans votre livre, Franck Houdert.
Ouais, bah c'est quelqu'un du coin qui a vécu la même chose que nous, en même temps que nous. Mmh. C'est son métier. Et là, il fait un gros travail, justement, pour que l'on puisse replanter en octobre. Alors lui, il nous dit, bah, je fais mon métier. Mais bon, je pense qu'il le fait avec cœur, passion. Et pour nous, c'est du bonheur.
La reconstruction, elle va s'étaler étape par étape. Elle va durer 9 mois, hein, jusqu'à ce 3 avril dernier, avec la réouverture officielle du camping. Quel sentiment on a à ce moment-là, lorsque le camping rouvre ?
Ah, c'est du bonheur. Pur bonheur pour tout le monde. Toute la journée, toutes les équipes avaient la banane. Il y a une entreprise qui nous a offert des suites jaunes, justement, pour que ça claque, pour que ce soit vraiment une journée de bonheur pour tout le monde, de bonne humeur. Et en fait, on a ressenti ça tout au long de la journée. On avait besoin et envie que ça reprenne.
Un camping à l'identique ou qui a forcément changé, qui sera plus jamais le même?
Non, un camping à l'identique. Alors, à l'identité, nous, elle est surtout donnée par le personnel. Mm-hmm. La bonne humeur, c'est ce qui fait notre marque de fabrique. Après, l'intérieur sera le même. On a pour l'instant, les bâtiments n'ont pas été reconstruits puisqu'on attend les permis.
Oui.
On peut pas faire sans. Donc, on a remis des tentes lodges, on a refait les emplacements. Et nous, on tient à avoir des emplacements camping-car, tente, caravane. Voilà. On n'a pas fait de zone pavillon et de zone tente. Tout est mélangé.
Et comment s'annoncent les réservations pour l'été? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous disent on va revenir au camping des Flots Bleus, et pas uniquement parce qu'il y a eu les films qui ont été tournés?
Oh ben là, on a déjà fait un très bon mois d'avril, on a déjà des habitués qui sont revenus, des habitués qui ont réservé pour le mois de mai, d'autres qui ont réservé en juillet, en août. Pareil, on a une grosse solidarité, des gens qui viennent, on vient juste vous faire un petit coucou et passer une nuit chez vous. Enfin voilà, c'est ça fait du bien.
Ça fait du bien.
On n'a pas fait tout ça pour rien.
Alors, le camping des Flots Bleus, c'est aussi plein d'anecdotes, hein, que vous racontez dans votre livre. On va y venir. Et dans un instant également, on s'intéressera aux séries télévisées avec Pauline Arrée. Mais on va auparavant tourner une autre page musicale, toujours de votre choix, Franck Couder. Alors, après Queen, vous nous proposez le duo Julien Doré et Eddie De Pretto pour L'Arme Fatale. L'Arme Fatale, est-ce que c'était celle que vous avez peut-être versée lorsque vous avez vu L'Étendue de la Désolation, ou ça n'a rien à voir?
Non, c'est un peu des deux. Voilà. Ouais. Ça l'a été, et puis c'est devenu la chanson préférée de mon troisième garçon, qui a 3 ans, donc voilà, je garde tout le temps mon téléphone.
Eh bien, on va écouter ça, un extrait de cette L'Arme Fatale, et on se retrouve tout de suite après pour parler série télé.
Les arguments et les baisers, je sais j'en ai mis du temps pour te trouver. J'ai remis les gants pour venir te toucher au milieu des torrents de médiocrité.
Si la pluie s'installe, viens sur mon oreiller. J'ai la larme fatale, mais j'ai rien oublié. Tu sais, tout est incertain et tout est dispersé. J'ai vendu mon âme avant de négocier. Oh, elle est pas belle la vie. Oh, elle est pas belle. Prends-moi par la main et dis-moi si j'ai pied. Des fois que j'avale un peu de leurs idées.
La vie me fait mal avec ses coups de dés. Mourir c'est pas grave, c'est que tout le monde le fait. Oh, elle est pas belle la vie.
est pas belle la vie, elle est pas belle là. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle là. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle là. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle là.
Voilà, L'arme fatale, un extrait du duo entre Julien Doré et Eddy de Préto. Le choix de Franck Couder. Franck Couder, le directeur du camping le plus célèbre de France, celui des Flots Bleus, où était tournée donc la trilogie de Fabien Antoniente avec Franck Dubosc. Alors, le mardi, après l'histoire d'objets, on s'intéresse également aux séries télévisées. Comment faire notre choix? Bien, on a notre experte en série, c'est Pauline Et aujourd'hui, eh bien, c'est d'un groupe frappé en pleine gloire dont il va s'agir.
Winter is coming.
Cher Winston.
Votre Majesté.
Je m'appelle Tokyo.
C'est marrant, vous parlez comme dans une série.
Tout doux, l'actu des séries.
Et bonjour Pauline.
Et bonjour Vincent.
Alors aujourd'hui, une série qui va rappeler bien des souvenirs musicaux à toute une génération. Daisy and the Six, réalisé par Taylor Jenkins Reid, et c'est à voir sur Prime Video.
Oui, elle va vous rappeler des souvenirs musicaux parce que elle nous fait bien penser à Fleetwood Mac. Souvenez-vous, c'était un groupe de rock iconique dans les années 60, mené par une jeune femme, un album qui est resté mythique et des membres tourmentés qui donnent au groupe une histoire bien tumultueuse. Eh bien, figurez-vous que dans Daisy and the Six, on s'est largement inspiré de Fleetwood Mac.
Inspiré, dites-vous, mais dans quelle mesure?
Eh bien, dans cette fiction, on suit un groupe qui est mené par Daisy Jones, à l'apogée de sa gloire, après de longues années de galère quand même. Hein. Mais finalement, dans cette pleine période de succès, eh bien, les membres quittent soudainement le navire. Et quelques décennies plus tard, on comprend pourquoi et on fait le point. Extrait de la bande-annonce.
Je voulais te dire que j'adore le son de ta voix.
We unraveled a long time ago. We lost and we couldn't let it go.
C'est pas vrai.
C'est votre premier 45 tours et il est déjà numéro 1. Comment faire mieux que ça?
Quand on fait un album, c'est intime. Il faut que ça le soit.
Dis-moi qu'il se passe rien de spécial entre nous, vas-y. Vas-y, dis-moi que je suis cinglée. Mais si t'es amoureux d'elle...
Non, pas du tout.
Si jamais ça t'arrive, ce sera fini entre nous.
Donc si j'ai bien compris, c'est une série essentiellement musicale, Pauline.
Oui, vous avez entendu un bon petit rock californien des années 70 dans la bande-annonce. Il a été travaillé grâce à des musiciens et des coachs vocaux. Et en même temps, il faut dire que Daisy Jones, elle est incarnée par Riley Koo. Elle a de qui tenir puisque c'est la petite fille d'Elvis Presley.
Effectivement, une belle référence. Alors, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que cette histoire, c'est aussi une adaptation du livre de Taylor Jenkins Reid qui a été publié en 2019, vendu à plus d'un million d'exemplaires. Comment est-ce que la série a pu apporter sa touche personnelle?
Eh ben, par exemple, par rapport à d'autres séries similaires, les scènes de drogue, d'alcool et de sexe restent quand même plutôt sages et convenues. Alors voilà, par rapport au livre, ce qui prend vraiment le dessus, c'est plutôt l'intrigue personnelle et émotive des personnages entre liaison, déchirement et puis amour de la musique. Et tant mieux, puisque finalement, ce qui nous intéresse dans cette série, c'est de savoir pourquoi un groupe à l'apogée de son succès peut disparaître soudainement des radars.
Daisy Jones and the Six, une série donc à découvrir dès maintenant sur Amazon Prime Video. Merci Pauline. Alors vous pouvez disparaître des micros en pleine gloire, mais on vous retrouvera quand même la semaine prochaine. À bientôt.
Doudou avec Vincent Belletti.
Voilà, Franck Couder, je ne sais pas si vous êtes un amateur de séries télévisées.
Ouais,
pas plus que ça.
Bref, le problème, maintenant qu'il y a le replay, c'est
Il faut avoir le temps aussi, c'est pas évident.
Non, en fait, j'ai pas de télé, moi, depuis un petit moment, là. Ouais. Je regarde que les replays, et trucs comme ça, parce que, en fait, je pars de la maison, et il est 8h, 8h30, je reviens... Ouais. Quand je peux.
En tout cas, il y en a une qui a cartonné aussi à la télé qui parle de camping. Un petit indice sonore.
Je me suis coincé le dos, je peux plus bouger.
Comment on va faire avec une personne en moins et quelle personne, hein?
Si ça dépanne, je peux aider. Camping Paradis, Christian Parizeau, manager général.
Écoute, on est content d'être arrivé, hein. Ça va, Tom?
Ça va et toi?
Appelez-moi Tom.
Allez, passez la journée non plus, hein.
Venez, je vous en prie.
Pardon, chaud devant. Il y en a qui travaillent ici. Ah ben, c'est pas trop tôt. Ah, on a le temps de mourir dans ce camping.
Voilà, Camping Paradis avec Laurent Ournat. Qu'est-ce qu'elle vous a fait de la concurrence côté notoriété, cette série télé, Franck Couder?
Oh, je pense pas. Hein. Je pense que de toute façon, il y a la place pour tout le monde. Hein.
Oui.
Mais non. Mais je le regarde des fois. C'est.
Il y en a qui confondent avec le vôtre en disant
ouais,
il est arrive. Où Laurent Ounarc.
Ouais, ça arrive. Ouais. C'est possible. Oui. Ouais. De temps en temps, ils pensent que c'est là que la série a été tournée. Ouais.
Et pourtant, c'est pas au même endroit, hein, parce que c'est au camping de l'Arquet Côte Bleue. C'est situé à Martigues, hein, dans les Bouches du Rhône. Par contre, il y a un autre camping qui porte le nom des Flots Bleus. Lui, il existe bien avec ce nom. Mais il est en Vendée.
Ouais, il y en a un en Vendée et c'est pour ça tout à l'heure vous parliez de Palavas. Et je crois qu'il y en a un aussi à Palavas.
Décidément, on vous pique tout alors.
Alors je sais pas s'ils étaient, s'ils se nommaient les Flots Bleus avant le film ou s'ils l'ont fait après. Je sais pas du tout. Mais par contre, on a des clients, des gens qui arrivent en ayant réservé sur la Vendée ou sur Palavas. Et qui arrive ici, on a une réservation, non, vous n'avez pas de réservation, mais si, mais non, jusqu'à ce qu'ils nous présentent le papier et on leur dise, c'est loin d'ici.
Il va falloir reprendre la voiture.
Exactement.
Voilà. Alors, dans votre livre, Franck Couder, Bienvenue au camping, eh bien, on apprend plein de petites choses insolites. On va en livrer dans quelques instants dans un spécial boîte à tout doux.
La boîte à tout doux.
Spécial donc camping des Flots Bleus avec cette première question qui concerne votre célèbre voisine. D'abord un petit indice sonore.
Au milieu des paysages exceptionnels que révèle le bassin d'Arcachon à ses visiteurs, rayonne une splendeur de la nature célèbre dans le monde entier. Originalité environnementale aussi impressionnante que majestueuse, la dune du Pilat et ses 2,7 km de sable fin fascinent à plus d'un titre. Un voyage onirique au milieu des éléments qui attire 1,5 million de curieux chaque année.
Voilà la dune du Pilat, une montagne de près de 1 milliard de grains de sable. Hein, c'est ce que vous dites dans votre livre. Je ne sais pas si vous les avez tous comptés, Franck Couder. En tout cas, elle ne s'est pas toujours appelée la dune du Pilat. Quel était son nom d'origine?
Ah, son nom d'origine, oui. Voilà. Hein, j'y suis tous les jours, voilà. Donc, ouais.
Elle s'est toujours appelée. Vous dites, elle s'appelait Sablonnet, en fait, hein, puis
ouais, au Sablonnet, mais Sablonnet, ouais, c'était le lieu-dit en fait.
Le lieu-dit, ouais.
S'appelait Sablonnet, ouais.
Et le mot Pila, il vient d'où? Est-ce que vous le savez?
Alors Pila, c'est en gascon, ça veut dire ta.
Ça veut dire ta, tout simplement.
Ouais. C'est pour ça qu'il y a une différenciation entre la ville du Pila-sur-Mer et YLA, qui a été créée par des gens. Qui avaient acheté des terrains et qui ont créé donc le village du Pilat, PYLA, et le Pilat, la dune du Pilat, PILAT. Voilà.
Alors une autre anecdote cette fois-ci qui concerne l'un des personnages principaux du film Camping, à savoir Claude Brasseur dans le rôle de Jackie Pique, pas content dès son arrivée de voir qu'on lui a changé son emplacement.
Depuis bientôt 30 ans, je fais 697 km tous les mois d'août pour l'emplacement 17. Et sur cet emplacement 17, il y a mon arbre, sur lequel mon épouse Laurette et moi, nous avons mis nos initiales dans un grand cœur gravé à l'Opinel le 17 août 1975. Je ne crois pas que l'informatique puisse mettre à mal une certaine logique.
Je comprends, mais on peut rien faire, je vous assure.
Très bien. Alors vous allez être obligé d'expliquer à tout le camping pourquoi monsieur et madame Pic ne passeront pas leurs vacances au Flots Bleus.
Voilà, autre H17 au lieu de H18, de quoi retourner à Melun. Et pourtant monsieur Pic, il a vraiment existé, hein, Franck Couder.
Eh oui, j'avais pour moi le vrai monsieur Pic, j'avais mon monsieur Pic, c'était ils s'appelaient Patrick. Alors c'est assez drôle aussi.
Et il venait toujours au même emplacement.
Toujours au même emplacement, toujours aux mêmes dates. Il était là le premier week-end de juillet et il m'attendait devant la porte. Il passait une partie de la nuit, je pense, sur le parking.
Ouais.
Quand il partait à la fin de ses vacances, il réservait pour l'année d'après. Et puis par contre, il fallait pas du tout plaisanter avec son emplacement.
Ouais.
C'est-à-dire qu'une fois, j'ai essayé de lui dire, mais écoute, je sais pas. Ah, commence pas.
Donc c'était vraiment spécifique.
Non, j'ai vu qu'il fallait pas plaisanter. Donc je dis non, mais c'est bon Patrick, il y a pas de problème.
Ouais.
Voilà. Donc
et il est toujours vivant le monsieur.
Malheureusement, il nous a quitté un hiver où son fils nous a appelé pour nous dire que il était parti.
Et depuis, son emplacement, vous avez mis une plaque ou pas, non?
Non, on a pas osé. Voilà, c'est aussi notre petit jardin secret. Ouais. Mais ce qui est sympa pour l'anecdote, c'est que son fils vient nous voir tous les ans. Donc il y a une suite.
Il y a une suite.
Ouais.
Voilà pour ces anecdotes. Il y en a beaucoup d'autres à retrouver dans votre livre. On se retrouve dans quelques instants pour terminer ensemble cette émission.
Doudou avec Vincent Belletti.
Ça fait 30 ans qu'on vient ici.
30 ans? Et pourquoi vous n'achetez pas une maison ici alors?
Ah bah non, on se refuse de venir là tout le temps.
Mais puisque ça fait 30 ans que vous venez ici tous les ans.
Oui, mais c'est pas pareil. Là, si on veut, on peut aller ailleurs. C'est ça le camping.
Eh ben oui, le camping, ça nous permet de changer d'endroit tout en restant où même. Extrait de Camping 1 de Fabienne Otoniente. Cela dit, y aura-t-il encore de la place pour planter sa tente en camping? Puisque depuis quelques années, on assiste à l'implantation massive de mobil-homes et de chalets au détriment des tentes. Une perte de 3% par an et de 7 à 10% de campings qui n'ont plus d'emplacement pour accueillir des campeurs. Ce sont des chiffres qui ont été donnés par un collectif qui a lancé une pétition. Sauvons le vrai camping. Le camping à tente est en voie de disparition, selon vous, Franck Couder?
Ah, je pense pas. Nous, on a bien sûr des mobil-homes, hein, puisque c'est aussi des demandes qui nous sont faites, mais on a 20% de logements en dur par rapport à tous nos emplacements. Donc, on garde une part importante pour les camping-cars, les tentes, les caravanes. Et les caravanes qu'on revoit de plus en plus. Voilà, mais c'est deux clientèles différentes.
Que vous cherchez toujours à équilibrer, donc il y aura toujours une place pour planter sa tente au camping des Flots Bleus.
À nous toujours. Ouais. C'est un point d'honneur. C'est pour nous le camping. Ben c'est pour ça que les tentes lodges ou les mobil-homes sont mélangés aux campeurs qui viennent en tente ou qui viennent en caravane ou en camping-car. Ouais. On n'a pas fait des zones. C'est un camping pour tout le monde et c'est très bien comme ça.
Et est-ce qu'il n'y a pas une tendance aussi à jouer aussi au camping un peu plus écologique qu'on a pu connaître peut-être depuis les dernières années?
Bah nous, on a, étant donné qu'on repart d'une feuille blanche, hein, on a essayé d'intégrer tout ce qui était photovoltaïque, récupération d'eau. Voilà, on a un maximum de bois, d'intégration, je dirais, dans la forêt qui va renaître, j'espère, bientôt avec les replantations. Alors, je sais pas si on peut dire écolo, parce que je dirais qu'écolo, c'est même pas la toile de tente, c'est je dors à même le sol. Voilà, mais en fait, on essaie d'être plus vert, le plus vertueux possible.
Eh bien, écoutez, voilà. Affaire à suivre. En attendant, bienvenue au camping, préfacé par Franck Dubosc. C'est paru aux éditions City, grandes et petites histoires du plus célèbre camping de France, raconté par vous, son directeur, Franck Couder, et avec Denis Grandjou. Merci d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir, Franck Couder.
Merci,
je vous souhaite
beaucoup.
Un très bon début de saison. Donc, à vous et à tous vos collègues aussi des campings de la Dune. Merci aussi à Louis-Martin Fermont qui a planté ses manettes en régie technique. Demain, c'est un couple d'écrivains que nous aurons le plaisir de recevoir. Alors tenez-vous bien, lui il est breton, elle est alsacienne et tous les deux ils ont écrit à quatre mains Loin des yeux, loin du cœur. C'est un nouveau titre de la saga Bretzel et beurre salé qui nous plonge au cœur d'une enquête à suspense menée par une poignée de villageois d'une petite localité du Finistère avec à sa tête une héroïne alsacienne. Et vous le verrez, les plus têtus ne sont pas ceux ou celles que l'on croit. Voilà, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de RCF et de Radio Notre-Dame. Et puis je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la réécouter sous tente ou pas sur les sites podcast et internet de nos deux stations. À demain, même heure, même endroit.